Que Dieu soit béni. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 18. Livre de l'Exode au chapitre 18. Ce sera notre premier texte ce matin dans l'introduction de ce que nous partagerons ensemble. Livre de l'Exode, chapitre 18, et nous lisons le chapitre en entier. Exode chapitre 18, verset 1er, Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Kershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger », l'autre se nommait Éliézer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père, Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna, il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. » Verset 13, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi et je prononce entre eux, je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Verset 24, Moïse écouta la voix de son beau-père et il fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps, il portait devant Moïse les affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. Le peuple d'Israël, après être sorti d'une manière victorieuse du pays d'Égypte, a rencontré bien des difficultés, des épreuves, des temps de souffrance. Nous savons qu'à un certain moment donné, le peuple qui se retrouvait dans le désert a eu faim. Nous savons qu'à d'autres temps, le peuple a eu soif, a murmuré contre Dieu. Nous savons que même le peuple a été engagé à devoir faire la guerre. Le peuple a connu plusieurs épreuves, mais à chaque fois, Dieu l'a puissamment secouru. Mais un autre fléau dont nous parlons peut-être pas souvent a bien aussi failli stopper définitivement la marche d'Israël vers la terre promise. Et ce fléau, c'est un manque d'organisation. Dans ce texte, ce qui est particulier, c'est que nous avons l'habitude de voir Moïse recevoir les instructions de la part de l'Éternel, et nous avons l'habitude de voir Moïse obéir à la lettre aux instructions de l'Éternel. Et dans ce texte, la consultation de l'Éternel est passée sous silence. Alors je ne peux rien en dire. Peut-être, c'est du domaine de ce que dit la Bible, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le texte dit, on n'y prend pas garde. Dans Job 33, verset 14. Alors que là, nous voyons Moïse recevoir une parole que nous pouvons qualifier une parole de sagesse. Non seulement il l'entend, il la reçoit, mais il se conforme à ce conseil, ce qui a été quelque chose de salutaire pour Israël. Tu t'épuises, tu épuises le peuple, la charge est au-dessus de tes forces, tu ne peux y suffire seul. Après tout ce que le peuple avait vécu, la faim, la soif, la guerre, voilà un autre fléau, son manque d'organisation, de structure. Et on peut penser ce que l'on veut de ce conseil, mais en tout cas, il a permis la bonne conduite du peuple d'Israël dans le désert. Et nous voyons comment, nous l'avons lu au verset 21, il y a ce choix des responsables, choix des chefs. Et déjà, par anticipation de tout ce que nous allons partager, un principe de délégation. Et je voudrais déjà vous dire ce matin que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il aime que les choses soient bien coordonnées. Il aime que les choses soient harmonieuses. Et si vous voulez vous en convaincre, il suffit de voir encore toute la progression du peuple d'Israël et voir comment Dieu va ordonner lui-même, comment les tribus doivent s'organiser. Il va donner des directives extrêmement précises pour la construction du tabernacle. Dieu va, dans ses moindres détails, structurer la vie du peuple, mise en place des Lévites, etc. Et la question que je nous pose ce matin, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Comment Dieu bâtit et organise son Église? Alors vous allez me dire, mais Jérôme, nous sommes aujourd'hui sous la dispensation du Saint-Esprit et il est capable lui-même de mettre en place tout ce dont l'Église a besoin pour vivre d'une manière harmonieuse. Oui, vous avez raison. Le Saint-Esprit communique la vie de Christ dans l'Église. Le Saint-Esprit a un rôle dans tout ce processus fondamental. Mais cela n'empêche pas à chacun d'entre nous de faire valoir le simple bon sens que Dieu nous donne, cette sagesse qu'il met en chacun d'entre nous, pour ne pas nous retrouver dans une situation analogue à Moïse, une situation d'épuisement et de porter une charge que le Seigneur ne nous demande pas de porter. À plusieurs, la chose devient plus aisée. D'ailleurs, pour vous en convaincre, parce que je vois que j'ai besoin d'essayer de vous convaincre, vous allez voir dans la parole qu'au plus fort de l'action du Saint-Esprit, les apôtres ont eu aussi besoin de déléguer. On lit ensemble dans Actes 6, c'est un texte que je rapproche, c'est pour ça que j'ai voulu lire Exode chapitre 18. Je rapproche ces deux textes. Pourquoi ? Parce que je pense que ce conseil qui est venu de Dieu d'une façon, d'une certaine manière a permis que le peuple d'Israël puisse continuer la marche, se développer, avancer. Et je crois aussi que s'il ne s'était pas passé ce qui va se passer dans le texte que nous allons lire, l'Église n'aurait pas pu connaître non plus son plein développement. Acte 6, verset 1er, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze, convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Je fais une petite parenthèse, parce que je n'en reparlerai pas, mais servir aux tables, on a l'impression que voilà, on est en train de manger, passer un plateau, on est sur une autre dimension. Servir aux tables, il y a beaucoup de notions à l'époque, mais ça peut être aussi les aspects tout simplement de trésorerie, etc. C'est une implication plus importante que le seul fait de manger. On continue la lecture, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage et qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Remarquez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parallèles avec l'autre texte que nous avons lu, remarquez que comme pour Moïse, la consultation de l'Éternel est aussi passée sous silence. Alors j'en dirai rien. Les apôtres ont-ils prié pour ce besoin? Certainement. Ils ont agi aussi avec bon sens. Ces conseils ont-ils arrêté l'action du Saint-Esprit? Non, au contraire. Et c'est ainsi, quand vous lisez les divers épîtres du Nouveau Testament, que vous allez voir que petit à petit, l'Église s'est structurée. Nous voyons plus tard la mise en place de diacres, d'anciens, et comment la vie qui s'est développée par l'action puissante du Saint-Esprit au milieu des premiers disciples, comment cette vie, petit à petit, elle s'est organisée. Et c'est le titre que j'ai donné à mon message. L'Église, un corps bien coordonné. L'Église, un corps comme corps humain, C-O-R-P-S, un corps bien coordonné. La première chose que je laisserai sur votre cœur, sur ce thème-là, c'est que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Arrêtons-nous quelques instants sur la création. Comme je l'ai déjà dit, Dieu aime que les choses soient bien ordonnées, bien rangées, bien mises en ordre. Ce que Dieu crée, il l'ordonne, il le range, il l'organise. Rien que la seule lecture du premier chapitre de la Bible doit nous en convaincre. Et je veux lire quelques versets avec vous dans Genèse au chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er, vous voyez, je n'ai pas changé, je vous fais lire beaucoup de textes. Mais on m'avait dit de ne pas changer, alors pourquoi je dis ça un peu ironiquement? C'est parce que c'est la parole qui doit nous convaincre, d'accord? Genèse, chapitre 1er, nous lirons que les 13 premiers versets, mais combien je vous encourage à relire tout ce texte, tout ce chapitre en entier. Il est dit ceci, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Et il appela l'amas des eaux mères. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Amen. Au verset 2, il est écrit que la terre était informe et vide. Et si on prend les mots hébreux, on peut lire « la terre était tohu-bohu ». Alors, il y a plein de théories qui ont été dites sur cet instant-là, je ne vais pas en rajouter encore plus. Juste dire que c'est l'état de la terre telle qu'elle était avant que Dieu mette tout en ordre. On peut peut-être penser à une sorte de nébula, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut imaginer, mais en tout cas, nous retiendrons ce matin que c'est l'état avant que Dieu mette tout en ordre. Et nous voyons comment Dieu, petit à petit, a structuré et organisé toutes choses. Et je ne m'étends pas sur tout ce chapitre parce qu'il parle de lui-même. Mais Dieu est véritablement un Dieu d'ordre. On peut noter juste quelques verbes d'action. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu analyse ce qu'il fait. Dieu sépare les éléments. On voit plus loin qu'il rassemble les eaux en un seul lieu, qu'il donne des noms. Et il fait porter aussi la semence dans toutes ces espèces afin qu'elles se multiplient. Nous pouvons dire que toute la création, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, nous montre clairement que Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'apôtre Paul avait bien raison de dire les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, dans Romains chapitre 1er et le verset 20. Si je regarde un avion là sur le tarmac de l'aéroport, je ne suis pas en train de me mettre autour de l'avion et de me poser la question, de me gratter la tête, mais comment il est arrivé là? Comment il y a une aile qui a eu l'intelligence ou le hasard qui a bien fait que s'accroche au fuselage au bon endroit, qu'il y a un moteur qui se cale bien là sur une aile pile au bon endroit, le hasard qui a bien positionné un petit peu toutes ces... Je ne me pose pas la question. Moi, quand je vois un avion, bien, je me dis, eh bien, il y a eu des gens, des êtres doués de grande intelligence, bien épaulés aujourd'hui par les machines aussi. Ils ont planché quelques heures pour pouvoir créer quand même ce prodige humain. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que les gens font. Quand ils regardent la création, qu'ils essayent de comprendre comment c'est arrivé sans Dieu, sans un créateur. Mais ne vous y trompez pas, de grands scientifiques ont bien compris depuis longtemps que si des lois régissent notre monde, c'est que derrière ces lois, il y a un législateur. Albert Einstein disait ceci, « Ma religion consiste en une humble admiration pour l'esprit supérieur dont la puissance se révèle jusque dans les petits détails à notre esprit faible et limité. » L'idée que je me fais de Dieu, c'est cette conviction profonde de la présence d'une intelligence supérieure qui est à l'œuvre dans l'univers. Albert Einstein. Même Voltaire a été obligé de reconnaître et d'admettre « Le monde m'embarrasse. Je ne puis songer qu'une telle horloge existe et qu'elle n'est pas d'horloger. » Je sais qu'il y a eu beaucoup de théories qui, comme la théorie de l'évolution, ont essayé de torpiller la vérité. Mais vous savez, même Darwin pouvait dire ceci, je le cite, « L'œil me donne des sueurs froides. Supposez que l'œil, avec toutes ses inimitables combinaisons pour ajuster le foyer aux différentes distances, pour admettre différentes quantités de lumière, pour la correction de l'erreur sphérique et chromatique, puisse avoir été formé par la sélection naturelle, cela, je le confesse, est absurde au plus haut degré. » On a essayé de comprendre et d'expliquer la création autrement, mais quel beau verset. Au commencement, Dieu créa les cieux cieux et la terre. De l'organisation, dirons-nous, parfaite de nos cellules à la structure parfaitement ordonnée des galaxies lointaines, nous pouvons dire comme le psalmiste, « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. » Alléluia. Psaume 92, versets 5 et verset 6. Tout nous parle de la perfection d'un Dieu d'ordre. Je parlais tout à l'heure, on a parlé de la nature, on peut revenir sur Israël rapidement. Considérez comment, tout au long de la marche du peuple d'Israël dans le désert, Dieu a structuré et organisé son peuple. Et bien heureusement, vous imaginez cette foule immense, d'une manière désordonnée, dans le désert, elle n'aurait pas subsisté longtemps. Mais Dieu a donné des lois, des règles très précises, parfois même dans le détail, comment une tribu devait se ranger par rapport à une autre. J'ai noté juste des versets où il est dit, « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, autour de la tente d'assignation, sous les enseignes de la maison de ses pères, à l'Orient le camp de Juda avec sa bannière, au Midi le camp de Ruben, etc. etc. » Comment Dieu orchestrait la vie de ce peuple. Je vous ai, si vous voulez le noter, cité Nombre au chapitre 2. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour les règles sanitaires, que ce soit pour les relations sociales, la famille, la vie de famille, tout ce qui est question de la nourriture, il faut voir comment Dieu avait tout réglé dans les moindres détails. La nature nous parle que Dieu est un Dieu d'ordre. La vie du peuple d'Israël, peuple de Dieu, choisi par Dieu. Mais même, vous savez, ce n'est pas que forcément dans le monde physique. Il y a aussi dans le monde spirituel de l'ordre. À un moment donné où Jésus allait être arrêté, Jésus a dit ceci, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant, pas le temps qui s'organise, à l'instant, plus de 12 légions d'anges dans Matthieu 26, versets 52-53 ?» Vous imaginez cette multitude d'anges au service de Dieu, telle une armée structurée et organisée en un instant disponible, pas seulement pour Jésus-Christ, mais aussi pour chacun d'entre vous. Il est écrit ceci, « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Alléluia. Psaume 91, verset 11. Ça, c'était le premier point que je voulais partager avec vous. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et le deuxième point que je voudrais évoquer avec vous, c'est que dans l'Église, l'Église c'est aussi un chef-d'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Dans l'Église, la vie s'organise pour pouvoir se développer. Alors, il faut insister sur quelque chose de fondamental et d'important, primordial, dirons-nous. L'Église, avant d'être une organisation ou une structure quelconque, l'Église, c'est un organisme. C'est quelque chose de vivant, comme notre corps. Et ce qui est fondamental, avant toute structure, c'est de laisser se développer la vie de Christ à l'intérieur. C'est à partir du moment où la vie, nous l'avons vu rapidement dans Actes chapitre 6, c'est à partir du moment où la vie se développe, où l'action du Saint-Esprit est là, où la vie de Christ se manifeste pleinement dans la vie des hommes et des femmes, qu'il y a une nécessité d'endiguer, d'organiser, structurer, mais pas d'étouffer. Parfois, dans notre façon de vouloir structurer, organiser les choses, nous étouffons. C'est quelquefois fragile trouver la tension qui existe entre la vie qui se développe et qui grandit, un peu comme... Vous ne vous en rappelez pas parce que vous étiez dans le ventre de vos parents, mais un peu comme cet embryon qui se développe de la vie, vous savez, de ces cellules qui se multiplient, qui s'organisent et que les organes se mettent, tout va un petit peu de pair. Le plus important et fondamental pour toute Église, c'est de laisser se développer la vie de Christ, de ne jamais l'enfermer l'envelopper dans une structure quelconque. Je l'appelle l'église marionnette quand c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que, effectivement, à un temps, il y a pu avoir la vie. La vie, on a organisé. Quand j'étais jeune, j'étais beaucoup marqué par essayer de comprendre. J'ai beaucoup étudié l'histoire de l'église parce que j'avais du mal à comprendre pourquoi, après tant de réformes, et vous savez que la réforme protestante n'échappe pas à ce que je vais dire, pourquoi, après le réveil, après, quand on voit l'église première, quand on voit comment elle s'organise et que la vie se développe, comment, à un certain moment donné, l'organisation est là, mais il n'y a plus la vie. Et je l'appelle un peu l'église marionnette, pourquoi ? Parce que si on veut continuer à lui donner un semblant de vie, eh bien, on attache des ficelles et on la fait bouger. Mais elle ne vit pas de l'intérieur. Trouver cette tension, cet équilibre. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait une organisation religieuse qui était bien réglée. Il y avait des prêtres, des scribes, des pharisiens, souverains sacrificateurs. Mais il n'y avait pas la vie. Et Jésus a été obligé de dire des paroles sévères. Il a dit ceci: « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Dans Matthieu 23, verset 27, vous savez, des fois on le dit, cette église, elle est morte. Alors peut-être qu'avant de pointer du doigt, parce qu'on pourrait se retrouver facilement comme l'histoire de la poutre et de la paille, avant de pointer du doigt, il est bon de s'examiner et de savoir où nous en sommes personnellement et collectivement. Il faut un bon équilibre pour le développement de la vie de l'Église, entre cette nécessité de se structurer, d'organiser, et de laisser la vie se développer. C'est un point important que je voulais appuyer ce matin. Je voudrais rappeler aussi une chose qui est fondamentale. C'est que ce ne sont pas les hommes qui bâtissent l'Église. Nous avons bien compris, je n'ai pas pris le temps ce matin, mais je le dis rapidement, chaque fois que je parle et que je cite le mot « église » ce matin, je ne parle pas d'un bâtiment. Le bâtiment nous sert, mais l'église, c'est bien l'ensemble des rachetés en quelque lieu qu'ils soient. Ce ne sont pas les hommes qui bâtissent l'église, mais c'est Dieu. Jésus a dit à Pierre, « Je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Dans Matthieu chapitre 16 et au verset 18. C'est son église. « Je bâtirai mon église », a dit le Seigneur. C'est son église à lui. Elle appartient à personne, pas à un mouvement quel qu'il soit. Il bâtit son église. Bien sûr, les hommes tentent de créer, de bâtir des organisations religieuses. Mais n'oublions pas que c'est Dieu et Dieu seul qui bâtit et que c'est son Église à lui. D'ailleurs, nous ne décidons pas de faire partie de cette Église. C'est Dieu qui nous y intègre par la nouvelle naissance. Il est écrit ceci: le Seigneur ajoutez chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église dans Actes chapitre 2 et verset 47. Je pourrais aussi vous citer ce premier chapitre de l'Évangile de Jean où il est écrit ceci: « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est réservé à une élite, à un groupe, dirons-nous, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. » C'est pour ça que je disais, ce n'est pas de notre propre volonté, mais de Dieu, de la volonté de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12, verset 13, ce n'est pas nous qui le décidons. Nous décidons de suivre Christ, de lui donner notre cœur. Nous plions le genou devant la croix, nous demandons pardon. Et c'est lui qui fait de nous un être nouveau. C'est lui qui nous intègre au corps de Christ. Je voudrais préciser aussi autre chose, parce qu'il y a une énorme confusion dans le corps de Christ sur la question, vous savez, de l'unité des croyants. Alors, sans aller jusqu'à aborder toutes ces notions d'œcuménisme et tout ça, je voudrais juste rappeler quelque chose qui est fondamental. Ce n'est pas à nous de créer une unité entre nous. Ce n'est pas de notre ressort. Nous devons juste, parce que la parole de Dieu nous le demande, nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix dans Éphésiens chapitre 4, verset 3. Mais nous sommes unis, car personnellement, c'est-à-dire à titre individuel, nous avons accepté Jésus comme notre sauveur. C'est la nouvelle naissance qui nous fait rentrer dans le corps de Christ. C'est parce que je suis devenu enfant de Dieu que nous sommes unis. Il faut lire Jean chapitre 3 et la rencontre de Jésus avec Nicodème pour se rendre compte que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Aucun effort humain d'unité de croyants ne peut constituer un peuple de rachetés. Nous ne créons pas l'unité des croyants les uns avec les autres. Quand Jésus, dans la prière sacerdotale, a prié, « Père, unis-les comme nous sommes unis. » Ce n'est pas quelque chose qu'il nous a demandé de faire, mais il a prié pour cette unité, il a prié son Père. Aucun effort humain d'unité de croyants ne peut constituer un peuple de rachetés. Seul, et cela a été rappelé plusieurs fois ce matin, seul le sang de Jésus a ce pouvoir par la croix du calvaire. Seul le sang de Jésus peut pardonner, purifier une vie. Bien sûr que une église, une structure d'église, des convictions peuvent nous toucher, ébranler notre foi. Il y a peut-être un désir d'adhésion, rien n'est malsain à tout cela. Mais vous ne pouvez pas décider vous-même d'entrer dans le corps de Christ. La seule chose que vous pouvez décider et que vous devez faire si vous ne l'avez pas fait, et je bénis le Seigneur pour tous ces dons spirituels encore qui ont appelé au moins une âme ce matin à se tourner vers Christ. La seule chose qui est du domaine de votre volonté, c'est de briser cet orgueil qui nous empêche de nous approcher librement de Dieu. Je parlais tout à l'heure de toutes ces théories. On essaie de créer un monde sans Dieu. La seule chose que vous avez à faire, qui est de domaine de votre volonté, c'est de plier le genou devant le Seigneur. Et lui fait tout le reste. Il fait de vous une nouvelle créature. Il vous intègre dans l'Église et il vous unit avec tous les enfants de Dieu. Il est écrit dans la Bible, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Il est fait mention ici des anciens. « Pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Oui, c'est Dieu qui bâtit l'Église et c'est le regard tourné encore vers la croix ce matin que nous nous rappelons qu'il se l'est acquise au prix de son sang, de la vie qu'il a donnée. Je vous ai lu acte 20, verset 28, et je vous lis ce qui est écrit dans Pierre. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Un peuple acquis. 1 Pierre 2:9, et je vous lis aussi ce que nous trouvons dans l'Apocalypse. Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Amen. La question d'unité, ça concerne Dieu. Je rentre dans la famille de Dieu et je suis uni avec mes frères et sœurs. Toujours dans ce deuxième point, dans l'Église, la vie s'organise pour pouvoir se développer. Je vais maintenant vous parler aussi du corps de Christ. C'est à partir du moment où je suis rentré, à partir du moment où je suis né de nouveau, eh bien que les rachetés forment le corps de Christ. Lisez avec moi dans Éphésiens chapitre 5, on va lire à partir du verset 22, j'aime bien lire plus large que ce que j'ai besoin, parce que ça nous donne d'avoir le contexte. Et puis, je considère aussi que c'est des moments intéressants où nous pouvons méditer la parole de Dieu ensemble. C'est elle qui doit être, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment notre guide. Éphésiens chapitre 5, verset 22. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Vous inquiétez pas, je ne vais pas parler ce matin de la soumission. Bon, il n'y a pas à s'inquiéter. Verset 23, « Car le mari est le chef de la femme. » Mais ce qui m'intéressait, c'est après la virgule, vous inquiétez pas. Voilà. Vous aussi, vous allez avoir, comme Darwin, des sueurs froides. « Le mari est le chef de la femme comme Christ. » Notez bien ceci. « Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. » et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Pardon, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. C'est ce que nous venons de dire. C'est le seul moyen, finalement, de créer un peuple, de racheter. Ce n'est pas une volonté, un désir, si légitime soit-il. Mais c'est seul et uniquement le sang de Jésus qui a été versé à la croix du calvaire qui fait de nous un peuple de rachetés. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que je peux être un membre de son corps. Cette image du corps nous parle de beaucoup de dimensions. Elle nous parle de diversité. Vous avez vu dans le corps, je ne sais pas si vous avez fait attention, des membres bien différents, doigts, l'œil, tatati. Elle nous parle de diversité, des membres si différents. On est un peu différents aussi, un petit peu. Elle parle aussi, cette image du corps, de complémentarité. Eh oui, tous les membres sont utiles. Elle parle aussi d'interdépendance, j'ai besoin des autres. Elle parle des relations vitales entre les membres. Vous savez, tous ces nerfs, jointures, le sang qui circule partout, il y a des relations. Et que dire des relations d'amour que nous devons vivre ensemble. Elle nous parle de plein de choses. Elle parle de l'unité, la véritable unité, parce qu'il y a un seul corps. Mais par souci de garder la pensée de notre thème qui est ce matin l'Église, un corps bien coordonné, je m'arrêterai juste sur cette dimension de l'image du corps, sur la dimension de l'organisation. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'œil, mais si nous pouvions un instant devenir aussi petit, voilà, je vous transforme, tac, on devient aussi petit qu'une pour pouvoir entrer dans une cellule de notre corps. Allez, ça fait petit, mais bon. Et là, je vous amènerai à considérer rien que toutes, vous savez, ces molécules d'ADN, bien rangés, bien organisés, qui sont là. Je vous amènerai peut-être à faire un petit voyage dans les vaisseaux de notre corps, voir la circulation du sang, peut-être s'arrêter un instant sur cette fameuse pompe qui ne cesse de fonctionner jour et nuit, 24 heures sur 24, qui véhicule tout le sang, tout à travers le corps pour que tout le monde soit bien irrigué. Et puis, on finirait peut-être la visite par un petit tour dans notre cerveau. Je ferai peut-être un quiz pour que quelqu'un essaye de calculer, essayer de compter le nombre d'informations que ces millions et millions de cellules nerveuses sont en train de trier instantanément et de comprendre peut-être toutes ces interactions qui fusent par millions dans nos têtes. C'est l'image splendide de cette, c'est l'image de cette machine qui est, moi je dis, une machine splendide, une usine extraordinaire de notre corps. C'est cette image que Paul prend pour parler de l'Église comme une belle œuvre du Seigneur. C'est lui qui l'a bâtie, c'est lui qui l'a créée, c'est lui qui la met en ordre pour la gloire de son nom. Amen. Nous l'avons vu dans Actes chapitre 6, la vie a pu se développer grâce à la mise en place de cette structure, de cette organisation. Elle était qu'à ses débuts, et plus tard, nous la voyons se perfectionner. Les uns servent aux tables, les autres s'exercent pleinement au ministère de la parole. C'est un début d'organisation. Et très tôt, nous voyons que l'Église, elle s'agrandit, elle se multiplie, elle se développe, elle s'organise. Ils se rassemblent régulièrement, ils pourvoient aux divers besoins, ils mettent en place plein de choses. Ça s'articule autour de responsables qui plus tard seront nommés des anciens et aussi des diacres. On voit combien il est important pour les apôtres à ce moment-là de structurer et de mettre les choses en ordre. L'apôtre Paul dira à Tite: je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Tite chapitre 1er verset 5. Je ne parle pas aujourd'hui de la manière dont tous ces services semblaient s'articuler dans l'Église primitive, mais je veux surtout que nous puissions considérer, je m'arrêterai là pour ce matin, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne veux pas me faire piéger comme l'autre fois. Je me suis accéléré et j'ai été frustré. Alors, j'ai préféré rester tranquille. Et Dieu voulant, à un autre moment, on partagera la suite. Ce n'est pas un problème. Mais je veux surtout que nous puissions considérer que dans l'Église, la vie de Christ, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fondement, la vie de Christ. Pour se développer, elle a besoin de s'organiser. Et nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, qui sommes devenus enfants, nous sommes, chacun d'entre nous, un don spirituel avant que nous partagions la parole, nous rappeler que nous ne pouvons pas négliger ce que Dieu nous a donné. Parfois, c'est vrai, on regarde et on aspire à certaines choses, et c'est pas malsain. La Bible dit « aspirer aux dons les meilleurs ». Mais je dois faire fructifier ce que Dieu m'a donné. Vous savez, la parabole des talents en dit long sur ce que le maître nous demandera et voudra qu'on rende compte sur ce qu'il nous avait confié. Considère, mon frère et ma sœur, qui que tu sois, que tu prêches, que tu balais, que tu joues, quel que soit ce que tu fais, c'est aussi important. Tous les membres sont utiles dans notre corps. Et il est primordial pour ta vie personnelle, parce que de l'éternité aussi en dépend, on le partage souvent par rapport à cette parabole des talents ici, du haut de cette estrade. Mais pas que pour toi personnellement. Tu as une responsabilité quand tu es devenu enfant de Dieu. Bien sûr, privilège, grâce immense, mais aussi responsabilité. Parce que si tu ne prends pas la place que tu dois prendre, et ça sera le troisième point qu'on partagera plus tard, si tu ne prends pas la place que tu dois prendre, la vie de Christ ne peut pas se développer pleinement dans l'Église. Bon, vous me direz, moi quand j'ai une jambe qui ne va pas, eh bien je compense avec l'autre. Oui, mais quand je compense avec l'autre, qu'est-ce qui se passe? Elle se fatigue plus. D'accord? Nous sommes tous utiles avec le don que Dieu nous a donné. Et je voudrais terminer juste par un texte que nous lirons ensemble dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Tous les membres, croyez-le, contribuent à la croissance de l'Église, à cette unité. Il est écrit ceci: il a donné les uns, il a donné, important, hein, il a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui. Et le temps manque, mais on en reparlera. Mais c'est vraiment de lui. C'est de la tête. C'est lui qui est le chef. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, et là, parle de nous, tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie, se bâtit, se construit, se développe lui-même dans l'amour. Amen. La version semeur du verset 22, « Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. » Et c'est important de le rappeler ce matin, aucun homme, je règle aucun compte. Ceux qui me connaissent, je ne fais référence en rien. Je ne pointe pas le doigt sur une église. Je ne parle pas en particulier de notre église. Je prêche la parole comme le Seigneur le met sur mon cœur. Mais je veux insister sur cela. Aucun homme, aucune organisation ne peut être à la tête de l'église. Alors, je n'ai pas fait la différence ce matin, peut-être on le fera plus la prochaine fois. Quand je parle d'église, je parle de l'église universelle. Mais je parle aussi de l'Église locale, l'Église universelle que souvent on écrit avec un grand E majuscule et l'Église locale avec un petit E. C'est vrai que souvent ça ne nous gêne pas trop de faire partie de l'Église universelle du grand corps de Christ, mais pour moi, la réalité de notre appartenance à l'Église universelle, elle a une réalité qui doit se trouver dans l'Église locale, Église petit E. Donc quand je dis aucun homme, aucune organisation ne peut être à la tête de l'Église. Je parle bien sûr de l'Église universelle, mais surtout de l'Église locale. Attention aux tentations parfois, lorsqu'on veut relier toutes ces églises locales à tout système clérical, tout ce qui est système de clergé qui voudrait prendre le contrôle parfois de l'Église locale. Ni un homme, ni une organisation, Christ doit rester et demeurer le chef et la tête de l'Église. Permettez-moi juste pour terminer de vous relire le verset 16 dans la transcription Parole vivante. Écoutez bien, parce que c'est important de réaliser que chaque organe, et vous êtes un de ces organes du corps, chaque organe, il doit remplir sa fonction, son office, selon ce que Dieu lui a donné. Permettez-moi de relire ce verset. Car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié et coordonné, grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée, et selon les forces et les capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins, de cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Amen. On se lève tous ensemble et on termine par la prière. Éternel notre Dieu, combien nous voulons te bénir encore pour ta parole. combien elle est riche en instructions pour nous. Merci de nous avoir donné cette liberté, comme cela a été dit encore ce matin, de pouvoir la partager. Merci pour cette liberté de l'esprit. Seigneur, nous réalisons ce matin que tu es un Dieu merveilleux. La nature, notre corps, tout nous montre que tu es parfait et que tu ordonnes les choses, tu les mets dans un certain ordre. Et ton désir, c'est aussi que ces choses-là se retrouvent dans l'Église. Nous réalisons encore ce matin que le modèle que tu nous as donné, ce n'est pas un roi et un chef qui veut nous matraquer, mais tu nous as donné le modèle d'un roi qui est un roi serviteur. Et chacun d'entre nous, nous avons le devoir de suivre ton exemple, de ne pas nous écraser les uns et les autres, peut-être pour une fonction qui nous semblerait plus hiérarchique que d'autres. Mais notre devoir, c'est de nous aimer et de suivre ton exemple, c'est-à-dire de nous servir les uns les autres. Le ministère que tu donnes à chacun d'entre nous, c'est que nous puissions être utiles entre tes mains, nous servant les uns les autres dans l'amour parfait de Christ. C'est l'exemple que tu nous as laissé, Seigneur, et tu nous as même encouragés à le suivre, et nous voulons te prier de tout notre cœur, de nous aider, Seigneur, à avoir cette humilité dans notre cœur, d'avoir cette crainte respectueuse, que tu es le chef, c'est toi qui domines, Seigneur, sur toute chose, et c'est toi qui es le chef de l'Église, c'est toi qui nous donnes les informations dans tout ce corps pour qu'il soit bien lié et coordonné. Je te prie pour mes frères et sœurs et pour moi-même, ce don que tu nous as donné, ce talent que nous avons peut-être caché, enfoui, que nous n'avons peut-être pas osé mettre en avant. Seigneur, pardon, mais je veux le faire fructifier pour la gloire de ton nom. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Mets-nous là où tu veux, mais que nous ayons cette force les uns et les autres de manifester la vie de Christ dans notre vie personnelle, mais aussi dans ton Église, pour que le monde sache et connaisse que nous t'appartenons. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié ce matin. Amen.